Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et notre invité ce matin est Antoine Kieffer. Il est responsable du Rassemblement National de la circonscription de Dinan et il est également candidat aux élections législatives. Il est venu de Dinan jusqu'au micro de Bretagne 5 et je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors Antoine Kieffer, on va parler des législatives tout à l'heure évidemment. Hein, c'est important pour vous puisque vous vous présentez sur la circonscription de Dinan. Mais il y a avant la présidentielle, vous soutenez Marine Le Pen. Marine Le Pen qui aujourd'hui est à égalité avec Éric Zemmour dans les sondages. Alors une question vient tout de suite à l'esprit. Et pour le second tour, si Marine Le Pen y était ou si Éric Zemmour y était, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une alliance?
Alors moi, les sondages m'en méfient, hein, comme toujours. Je ne pense pas que Éric Zemmour soit aussi haut. Il suffit de regarder autour de soi. L'adhésion au programme, aux idées de Marine sont quand même de plus en plus fortes. Voilà, c'est un sondage depuis de tant et tant de semaines, donc il peut y avoir des loupés, des ratés. Mais moi, je méfie quand même des sondages et je préfère plutôt le terrain et ensuite les urnes.
Alors, c'est comment sur le terrain, justement ?
Eh bien, sur le terrain, c'est très différent d'il y a quelques années. On s'aperçoit des personnes qui, en 2017, n'auraient pas forcément franchi le pas de voter pour Marine Le Pen, se disent aujourd'hui alors soit indifférents au fait qu'il y ait Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, donc n'iront pas voter. C'est ce réservoir de voix qui n'ira pas voter contre Marine Le Pen au second tour est souvent de gauche. Mmh. Et il y a des personnes qui ouvertement disent vouloir franchir le pas et qu'avec ce que l'on a vécu avec Emmanuel Macron depuis 5 ans, eh bien Marine Le Pen peut effectivement faire beaucoup mieux.
Alors il y a une crise, hein, elle est là, crise sociale, crise économique aussi, même si ça va mieux l'économie, hein. En tout cas là encore, hein, si on en croit les déclarations du gouvernement.
Et qui sont fausses.
Qui sont fausses. Alors il y a eu d'ailleurs...
On a perdu 8% l'année dernière et on en a gagné 7. Donc il y a un différentiel de moins 1.
Voilà, c'est finalement les aides de l'État qui, pour vous, ont artificialisé,
oui,
un peu les chiffres.
Ça maintient artificiellement les entreprises à flot. Mais il y a énormément de problèmes, surtout dans l'industrie française. Il y a des bombes à retardement dans l'industrie française sur tout un tas d'augmentations, par exemple, de dépenses énergétiques. J'ai rencontré des personnes, par exemple des patrons de l'industrie du bois, qui me disaient avec l'augmentation de l'électricité, nous avons des collègues qui sont obligés d'ouvrir et de racheter des groupes électrogènes pour faire fonctionner leur usine parce que le coût de l'électricité est beaucoup trop cher. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est ?
Ce n'est pas bon pour l'environnement.
Ce n'est pas bon pour l'environnement de surcroît. Mais on est dans un stade où des entreprises se demandent si elles vont pouvoir... tenir le coup.
Alors il y a eu cette ouverture à la concurrence, hein, depuis plusieurs années, si on parle d'énergie, hein, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'électricité en particulier. EDF est à la peine aujourd'hui parce qu'on voit les réacteurs nucléaires qui ferment, on va se retrouver dans une situation très compliquée.
Oui, elle s'éclairait à la bougie.
Et en même temps, Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire. Ouais. Est-ce que pour le coup, c'est une bonne idée ?
Oui, c'est le en même temps de Macron. C'est-à-dire qu'il ferme des réacteurs nucléaires, et puis de l'autre côté, il veut relancer l'industrie nucléaire. On est habitué, et puis alors, dans 60 jours, c'est l'élection présidentielle, et il faut bien faire des annonces qui tomberont à l'eau parce qu'il n'en a absolument pas les convictions. EDF est dépecé. Voilà, alors il a fait une annonce comme quoi il voulait faire un rachat d'une part de la branche énergie d'Alstom, qui a été vendu par ses soins avec son stylo et sa feuille à General Electric lorsqu'il était ministre de l'économie. Je pense que les Français ne sont pas dupes. Hein. Ils ont vécu ça pendant 5 ans, c'est-à-dire le en même temps de « je ferme la centrale nucléaire de Fessenheim, mais je relance le nucléaire, et puis je suis pour le développement des énergies renouvelables et le doublement des implantations des éoliennes. » Et en même temps, non, il faut arrêter parce que ça ne plaît pas. En réalité, il est complètement, complètement perdu. Et sur ces sujets-là, le Rassemblement national et Marine Le Pen est en pointe, c'est-à-dire que la défense des intérêts nationaux, de l'indépendance énergétique, d'une stratégie nationale énergétique, est portée par Marine Le Pen.
On a perdu cette stratégie justement d'indépendance énergétique avec par exemple l'abandon à terme du nucléaire. D'ailleurs, est-ce qu'il faut l'abandonner, le nucléaire ?
Non, il ne faut pas l'abandonner. Pas l'abandonner parce qu'il y a, des possibilités également de réduire les déchets. Le programme qui était celui de l'étude de cette faisabilité de réduction de déchets nucléaires s'appelait Astrid. Emmanuel Macron l'a abandonné. Voilà. Donc il faut relancer ce projet et le nucléaire, qui est une énergie décarbonée, est un atout et aussi pour l'indépendance de la France, est un atout majeur.
Vous parliez tout à l'heure, Antoine Kiefer, des éoliennes. Alors, on sait que vous êtes en pointe, si j'ose dire, dans le combat contre les éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Est-ce qu'il, malgré tout, il faut assurer une forme de transition énergétique avec les éoliennes, avec également, on peut imaginer l'énergie hydraulique ou encore l'énergie du soleil, l'énergie solaire. Est-ce qu'il faut, malgré tout, développer ces énergies ou il faut les limiter à la portion congrue, allais-je dire ?
Alors, aujourd'hui, premièrement, les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou maritimes, une fois que Marine Le Pen sera élue, ce sera terminé. Pourquoi ? C'est pas idéologique, c'est pragmatique. C'est-à-dire que c'est une énergie intermittente, comme beaucoup d'autres, que l'on dit vouloir inclure au mix énergétique. Mais c'est une énergie intermittente, imprévisible, qui n'est pas pilotable et qui fait un dégât absolument colossal sur l'économie, sur l'écologie. Et sur le visuel également, c'est absolument affreux. Oui, pour un mix énergétique, mais il faut que ce soit des énergies qui puissent être pilotables et prévisibles. L'énergie hydraulique est prévisible et pilotable. L'énergie comme le barrage de la Rance avec l'usine marémotrice est pilotable. Il y a aussi des inconvénients et je pense qu'il va falloir aussi se poser la question de ce sujet parce qu'il y a aussi l'envasement. De la Rance. Il y a possibilité de désenvaser. On sait que la vase est très bénéfique pour l'apport en nutriments pour les sols et pour les agriculteurs. Il y a tout un tas de sujets comme ça qui ne sont pas traités et qui sont mis de côté par les macronistes. Donc oui, il faut un mix, mais avec des énergies qui sont, encore une fois, pilotables et prévisibles, comme le nucléaire et l'hydraulique.
Alors, on a les enjeux politiques, vous les posez, ces enjeux politiques, mais qui passent, on a le sentiment un petit peu au second plan, en tout cas du point de vue des Français, des Bretons, qui sont plus préoccupés par leur pouvoir d'achat, il faut bien le dire, aujourd'hui. Alors, justement, les coûts de l'énergie, on a ouvert à la concurrence, on en parle à l'instant. Est-ce qu'il faut renationaliser, par exemple, EDF ?
Alors, il faut en faire en sorte que EDF puisse produire et proposer de l'énergie à bas coût. C'est-à-dire que ça peut être renationalisé comme ça peut être entouré, structuré, et que les prix ne s'envolent pas. Mais encore une fois, cette stratégie de production énergétique, elle a été totalement abandonnée. Voilà, quand on fait le choix de l'éolien, du solaire et de toutes ces énergies très coûteuses qui sont intermittentes, on fait augmenter la facture d'électricité. Et l'éolien, il faut savoir que l'éolien en France aujourd'hui est subventionné de manière absolument folle. Et ça, c'est les Français qui le payent et ils l'ont sur leur facture d'électricité. Aujourd'hui, l'éolien est racheté, par exemple, en baie de Saint-Brieuc, trois fois plus cher que ce qu'une centrale nucléaire peut produire. Et en dehors de ça, il y a aussi l'installation, la liaison terre-mer qui coûte, comme dirait Emmanuel Macron, un pognon de dingue. Et sans aucune vision de long terme et aucune stratégie énergétique. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner que les prix soient aussi hauts. Et deuxièmement, pour les coûts de l'énergie tels que le fuel et les autres carburants, il y a 60% de taxes qui sont aujourd'hui mis en place par le gouvernement. Donc inévitablement, quand le prix de ce carburant augmente, les prix des taxes augmentent.
Le Premier ministre, Jean Castex, a fait un geste en disant voilà, on va baisser les taxes, en tout cas au moins temporairement.
Oui, pour les élections.
Il y a également le problème du coût de l'énergie lié au marché, puisqu'aujourd'hui l'énergie est mise sur le marché, hein, en tout cas l'énergie électrique, au même titre que le pétrole ou d'autres énergies. Est-ce qu'il faut arrêter ce système ?
Alors, qu'est-ce qu'il faut arrêter
d'être lié au marché, au marché, la spéculation autour de l'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que l'énergie, ce soit un prix garanti et qu'on soit presque directement du producteur au consommateur, si j'ose dire.
Pour l'électricité, par exemple, ça, c'est une stratégie qui doit être nationale. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner le nucléaire, parce que c'est aussi un atout national d'indépendance. Et donc, effectivement, sur ce levier-là, on peut... Sur les carburants, l'État peut aussi jouer sur les taxes qu'il a mises en place. C'est pour ça que Marine Le Pen souhaite baisser les taxes sur les produits de première nécessité, enfin, tels que les carburants, le gaz et l'électricité, d'une manière très drastique. Mmh. Et sur l'électricité, encore une fois, on en parlait, c'est une question de vision, de stratégie nationale. Si on souhaite mettre dans un mix énergétique des énergies qui sont très chères, très coûteuses et qui ne sont pas prévisibles, automatiquement, on va avoir des problèmes de pouvoir d'achat et des problèmes également de fourniture d'électricité.
Alors, on a vu, vous abordiez à l'instant le problème des carburants. Alors, on le disait dans la revue de presse ce matin, dans certaines îles bretonnes, le carburant s'envole. Oui. On est à plus de 2 euros hein, quand même.
Exactement.
Ça pose un problème pour les déplacements, en particulier en zone rurale. Là, on n'a pas forcément les moyens d'acheter un véhicule électrique, parce qu'il y a aussi...
Et de l'utiliser.
Et de l'utiliser, évidemment. mais de l'acheter déjà, parce que ça coûte cher. Puis, on va demander à un moment ou à un autre beaucoup d'électricité pour recharger nos batteries. Est-ce que là aussi, ça va rentrer dans la stratégie de développement ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, personnellement, on ne croit pas aux véhicules électriques. Mmh. Bon. Notre vision, c'est le développement de l'hydrogène. Surtout avec notre atout national qui est le nucléaire. C'est-à-dire que nous pouvons produire cette énergie.
Il faut beaucoup d'électricité, finalement.
Un mix d'électricité et d'eau qui n'émet absolument pas de CO2. Et qui est totalement écologique et qui est, donc, encore une fois, pour nous, avec un atout national qu'est le nucléaire et nos centrales nucléaires, qui est une énergie en devenir, en avenir. Mmh. Mais pour revenir aux véhicules électriques, effectivement, on ne pourra pas tous avoir des véhicules électriques et les charger le soir en rentrant du travail. Il y a des études qui ont été faites. Je donne un exemple. Si c'était cette étude qui disait ça, que si l'ensemble des Parisiens branchaient leur véhicule électrique, s'ils avaient un véhicule électrique au même moment en sortant du boulot, par exemple, ça ferait sauter le circuit national.
Voilà, on sera en blackout finalement.
Voilà, blackout. Donc, encore une fois, il y a un manque de vision. Voilà. Il y a des moments, par exemple, où la production énergétique avec le nucléaire est plus importante et où la consommation est plus faible. Et c'est à ce moment-là, par exemple, dans ces pics-là, que nous pourrions faire de la production d'hydrogène. L'hydrogène est stockable. C'est cette énergie-là qu'il faut développer et non pas les voitures électriques qui sont très polluantes. Et on voit aujourd'hui aussi les problématiques d'approvisionnement en métaux lourds et en métaux rares en Chine.
Les fameux métaux rares. On va parler des salaires maintenant. C'est aussi une préoccupation, j'allais presque dire au premier chef des Français. Les salaires n'augmentent pas, le coût de la vie augmente. Là encore, c'est un peu un lieu commun de le dire. Quelle est la vision du Rassemblement national de Marine Le Pen pour essayer d'améliorer un petit peu le quotidien des Français ?
La première proposition, par exemple... On sait que, surtout dans les travaux manuels, moi j'ai pu le voir, les entreprises ont parfois du mal à recruter. Pas parce que les gens ne veulent pas travailler, mais parce qu'on a tapé sur le travail manuel depuis des années. Et j'en ai fait les frais, j'ai pu voir ça, puisque j'ai été en filière professionnelle, quand j'étais étudiant. Donc la proposition est la suivante. Les entreprises qui souhaitent augmenter les salaires de 10%, de l'ensemble de leurs salariés ne verront pas, sur cette différence de 10% d'augmentation des salaires, ne verront pas d'augmentation de charges patronales. Donc ça, c'est quelque chose que les entreprises trouvent avantageux parce que la problématique aujourd'hui, surtout dans le travail manuel, c'est de trouver du personnel qualifié, et de le garder.
Mmh. Et il faut le former aussi.
Et le former, voilà, c'est pour ça.
Cette filière de formation.
Exactement. Et aujourd'hui, les salaires sont très bas. Le salaire maximum aujourd'hui, en réalité, devient le salaire minimum. Donc voilà un exemple de pouvoir d'achat retrouvé. Il y aura également la baisse des taxes sur les carburants et le gaz et l'électricité. Et pour les jeunes qui se lancent dans la vie, il y a également l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Alors, ce n'est pas un cadeau en l'air, mmh. C'est parce que c'est une stratégie. Aujourd'hui, les sondages le montrent, 80% des jeunes partiraient à l'étranger s'ils avaient un salaire et un poste plus intéressant. Donc, si nous n'avons plus de jeunes plus tard et que la vitalité de notre pays s'en va, dans quelle situation allons-nous être ? Donc, c'est une proposition également de bon sens. L'exonération d'impôt sur les sociétés également, pour les entrepreneurs de moins de 30 ans sur une durée de 5 ans. Ça va permettre aux jeunes de s'engager, de créer des entreprises, et ça va être absolument bénéfique pour le pays.
Voilà, conserver la jeunesse en France, c'est plutôt qu'elle parte à l'étranger. Voilà. Oui. On parle aussi de la réindustrialisation. C'est un mot qui est lancé. Nombre de candidats à l'élection présidentielle s'approprient ce mot de réindustrialisation, il est même dur à dire. Quelle est la position du Rassemblement national sur ce sujet qui est quand même important aussi pour la France ? On a perdu beaucoup d'industries.
Absolument, et on l'a vu pendant la crise Covid avec la pénurie de masques et de matériel en tout genre. Ces produits étaient fabriqués à l'étranger, n'étaient plus fabriqués en France. Et quand ils étaient fabriqués en France comme en Bretagne, eh bien l'État abandonnait ces filières. La réindustrialisation, il faut comprendre qu'elle n'arrivera pas sans une vision de long terme, sans rassurer les entreprises et sans protectionnisme intelligent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réindustrialiser la France si on ne se protège pas des productions qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales et les mêmes normes sanitaires. Donc le protectionnisme, c'est important, c'est ce que propose Marine Le Pen. Et effectivement, il n'y aura pas non plus de réindustrialisation pour beaucoup de filières sans patriotisme économique. Voilà, par exemple, pour les agriculteurs, alors ça n'est pas de la réindustrialisation, mais pour les agriculteurs et pour pouvoir leur permettre d'avoir des prix justes, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter des produits qui entrent en France, qui ne respectent pas les mêmes normes sociales, environnementales, sanitaires, avec un coût beaucoup plus moindre que ce que nos agriculteurs font. Et nous devons de les aider et nous devons également, pour une stratégie nationale, nous permettre et nous donner les moyens de faire entrer ces produits dans les commandes publiques.
Mais comment arriver à faire tout cela avec l'Europe quand même ? Parce que l'Europe est là et elle pèse aussi.
Elle pèse aussi. Elle a changé depuis quelques années, c'est-à-dire que nous avons beaucoup fait pression parce que nous avons énormément d'alliés européens qui ont exactement la même vision, cette vision nationale de protectionnisme et de réindustrialisation. Donc, nous pouvons le faire et nous devons le faire parce qu'il en va de l'avenir de la France, mais aussi de l'Europe entière, parce que l'Europe est touchée par cette désindustrialisation de masse.
Voilà, il faut que le continent tout entier réagisse finalement face à cette désindustrialisation.
Ce mot n'est pas facile.
Ce matin, on aurait eu du mal. Il est 8h50, le temps va très vite, Antoine Kiefer. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la vieillesse et l'hôpital, parce que ce sont deux sujets qui reviennent dans l'actualité ces derniers jours. On a entendu ce scandale dans les EHPAD. Là aussi, les EHPAD, faut-il à un moment ou à un autre que l'État se réapproprie la vieillesse, allais-je dire, et contrôle mieux ces établissements où on sent qu'il y a quand même des dérives qui sont plus liées à la rentabilité, finalement.
C'est le problème. C'est que Aujourd'hui, la maltraitance de nos aînés est liée au profit. Mmh. Et ça, ça n'est pas admissible dans une société telle que la nôtre et dans un pays tel que le nôtre. Donc effectivement, et c'est les propositions de Marine Le Pen, l'État doit se pencher sur ces sujets. Et on ne peut pas se permettre de brader nos aînés à un profit quelconque. Donc effectivement, nous devons avoir un regard particulier sur ce sujet et nous devons nous poser la question de savoir si, par régulation, mmh. Par intervention de l'État, de faire en sorte que ce domaine soit respectueux de nos aînés et respectueux du bien-être et non pas... respectueux de leurs intérêts financiers, comme on a pu voir dans ces scandales. Mais il y a également, parce que c'est un sujet de maltraitance au fond, mmh. et la maltraitance, il y en a également chez les enfants. Mmh. Il y a donc beaucoup de problèmes en ce sens, et Marine Le Pen, dans les prochains jours, va développer ses propositions. Je parle de maltraitance pour les anciens et pour les enfants, parce qu'il y a un sujet très important, que j'évoquerai pendant les législatives. Il s'agit donc de dysfonctionnements majeurs qui sont révélés par plusieurs journalistes, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, par manque de moyens. Mmh. Par manque de moyens et parce que les personnels ne peuvent absolument pas traiter humainement tous les dossiers de tous ces signalements, par exemple, de placement d'enfants. Et donc ces sujets de maltraitance, qu'il s'agisse de nos aînés ou de nos enfants, est un sujet de préoccupation également pour Marine.
Alors vous disiez que vous allez vous présenter, on l'a dit en commençant, aux législatives, hein, aux élections législatives qui arriveront après la présidentielle, donc sur le canton de Dinan. Antoine Kiefer, alors il nous reste une petite poignée de minutes, deux, trois petites minutes, parce que bon, là aussi les sujets sont importants, mais on y reviendra évidemment, la campagne n'a pas encore commencé pour les législatives, mais il y a l'équilibre des territoires. Aujourd'hui on voit que cet équilibre des territoires est précaire, ne serait-ce que dans les déplacements, hein, on l'évoquait tout à l'heure avec les problèmes des carburants, mais on a ces équilibres, oui, plutôt précaires entre la ville et la campagne. On a l'impression que les villes prennent, ou les métropoles prennent beaucoup de place, et que la campagne, finalement, elle aussi, est réduite à la portion congrue.
Effectivement. Alors, sur ce sujet aussi, au niveau des présidentielles et des législatives, parce qu'il faut le rappeler, les présidentielles, vous aurez votre président ou votre présidente, en l'occurrence, de la République, et aux législatives, vous aurez vos législateurs, ceux qui votent les lois, mmh. qui appliquent les lois. Ces lois qui, souvent, vous ont, comme dit Emmanuel Macron, emmerdé pendant 5 ans. Donc c'est très important. Donc il y a les présidentielles et les législatives. Donc pour revenir à l'aménagement du territoire, effectivement, il y a eu une hyper-centralisation, une hyper-métropolisation qui a vidé les ruralités et qui a vidé également les villes moyennes de leurs entreprises, de leur vitalité, de leurs services publics. Et donc, nous, notre vision, qui est la même depuis de très nombreuses années, c'est effectivement d'inverser cette tendance et de revenir donc à quelque chose d'équilibré, un territoire équilibré. En ce sens, il y a des propositions qui sont faites, c'est-à-dire des incitations fiscales, par exemple, pour l'installation des entreprises dans les villes moyennes, parce que nous en avons besoin. Et puis après, il y a le transport également, mais l'aménagement du territoire, c'est aussi la fibre qui a pris énormément de retard avec la région Bretagne. On en sait quelque chose d'entre de très nombreux territoires. Donc effectivement, le réaménagement du territoire est quelque chose de primordial pour que la France puisse également se relancer économiquement et beaucoup plus facilement.
Et là aussi, essayer de développer les territoires avec les jeunes. Hein, vous en parliez tout à l'heure, les jeunes qui quittent les territoires ruraux.
Mais oui, qui quittent les territoires ruraux. J'ai dû le faire également, mais pas par volonté. Mmh. Parce que je n'en avais absolument pas le choix. Voilà, j'ai été 2 ans sur Paris parce que je n'avais pas forcément encore le permis et que la seule solution pour moi d'avoir un revenu et de payer mes factures, c'était d'aller à un endroit où effectivement le transport était absolument fabuleux. Bon, il y a énormément de problèmes de transport à Paris, mais les dessertes étaient beaucoup plus voilà, il y en a une toutes les 2 minutes, alors que nous, en réalité, un bus, il y en a 2-3 fois par jour. Mmh. Voilà, et puis ils passent à des horaires qui sont absolument déconnectés des réalités. Donc effectivement, il y a tout un réaménagement du territoire à faire et d'un triptyque important, parce qu'on ne pourra pas réaménager le territoire s'il y a autant de strates administratives qui ont été accumulées au fil des décennies. Voilà, nous, notre vision, c'est le triptyque municipal, le triptyque départemental, avec le troisième qui est la nation. Donc les communes, le département et la nation. Aujourd'hui, il y a les communes, les intercommunalités, les communautés d'agglo, le département, la région, l'État et l'Union européenne. Ça, on peut pas s'en sortir avec autant de strates successives.
Le sujet est vaste, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout. Antoine Kieffer, je rappelle que vous êtes responsable du Rassemblement national sur la circonscription de Dinan. Vous êtes, vous l'avez dit, également candidat aux élections législatives dans cette circonscription. Vous reviendrez évidemment au micro de Bretagne 5, comme beaucoup des intervenants autour de cette longue période électorale qui s'est ouverte. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée.
Merci à vous.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.